2 Corinthiens, chapitre 4. Je suis posé d'être allumé. Oui, m'entendez-vous? Il est-tu allumé? Oui, moi j'ai la lumière verte. Puis... Oui, ben, Josiah s'occupe de ça, là. Wow! Ça, c'est... C'est le Seigneur qui est sur le bord de revenir, là. Amen. Hey, on est dans la parole de Dieu. Puis je veux pas dire ça, mais c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle. Dieu s'adresse à nous, se révèle à nous. Et j'aimerais qu'on lise les versets 7 jusqu'à 18. Je vais les lire pour qu'on se remette dedans et qu'on voit le trésor qu'on a sous les yeux ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des passages des fois dans 2 Corinthiens, je ne les ai pas compris tout de suite. Genre, on a la mort qui agit en vous, c'est qui est vivant, qui est mort. C'est... Puis quand ça nous ouvre les yeux, on dit « Ah! » Mais là, c'est un « Ah » comme ça qu'on va avoir un matin. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Verset 8. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. » Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru... C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Il nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi... Nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Seigneur, on s'attend à toi, tu es le Dieu de vérité, le Dieu de gloire. Tu es la source de toute gloire dans notre vie, tu es la source de toute chose. Et on s'attend à toi, Seigneur, pour que tu te glorifies en formant Christ dans nos cœurs, ici à chacun de nous. Seigneur, que tu puisses illuminer les yeux de notre cœur sur ce passage précieux, ces vérités rédemptrices, libératrices, précieuses, Seigneur. Puisses-tu taire toute distraction, autant externe de ce qui peut arriver, aussi dans nos cœurs, qu'on fasse silence devant toi, notre Dieu. Qu'on sache que tu es Dieu, que c'est toi qui règnes. Souvent, on est tous troublés. Les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous. Mais Seigneur, que tes consolations ce matin réjouissent notre âme. Merci que tu es le consolateur. On s'adresse à toi, Seigneur, comme étant le seul qui est notre espoir, le seul qui fait en sorte qu'on ne perd pas courage. Merci, Seigneur, qu'on peut se confier en toi, Seigneur. Tu rémunères ceux qui te cherchent. Merci pour chacun ici qui te cherche. Oh, aussi que ceux qui n'ont pas encore la vie en toi, qui la trouvent aujourd'hui. À ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce fameux verset 12, il n'est pas très long. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Moi, je lisais ça, c'est pas parce que je n'ai pas capable de comprendre. Je veux dire, c'est quand même, de façon grammaticale, c'est facile à comprendre. Mais c'est quoi que ça veut dire exactement? Ben, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Puis je veux juste vous dire que le message d'aujourd'hui est le fruit. Ceux qui sont là les mercredis, là, à un moment donné, j'avais employé l'expression un message des petites heures du matin. Des fois, le Seigneur me réveille tôt dans la prière. Puis cette semaine, c'était quand dans la nuit de lundi à mardi. J'ai eu une petite semaine bien relax. C'était quasiment une semaine de vacances. Je me suis permis de prendre une heure de repos cette semaine pour juste décrocher. Mais non, ça a été un petit peu fou. Mais le Seigneur est tellement bon. Il nous rencontre là où on est. Puis dans un de ces moments-là, vraiment, c'était béni. Le Seigneur m'a donné un bon temps avec lui. Il a mis des choses sur mon cœur. Il m'a illuminé des versets de sa parole. Puis en plus, fait que là, ça, c'est donc il y a la notion du message des petites heures. Mais on pourrait dire que c'est un peu sur stéroïde parce que quand je me suis levé, ma femme m'a tellement béni. J'ai tellement une femme extraordinaire. Amen. Priez pour elle aussi, hein. Parce que Dieu est à l'œuvre, puis Satan, il sait, puis il veut essayer de prier pour ma femme. Elle m'a tellement béni ce matin-là. Juste avec son amour pour moi, son amour pour le Seigneur. Puis partager des vérités tellement merveilleuses, simples, puis c'est ça. Fait que finalement, j'ai à vous partager ce que le Seigneur travaille dans nos vies ce matin. Puis c'est beau. Puis c'est dangereux. Pas parce qu'on a peur puis tout ça, mais parce qu'on est dans une guerre spirituelle. Mais qu'on n'ait pas peur parce qu'il y a un prix à notre foi. Qu'on voit qu'il y a une récompense à notre foi. Dieu est bon. Et je veux vous partager les bénédictions de sa grâce, de sa vie. Et ce que je veux vous partager ce matin, je suis conscient que vous savez, le Seigneur nous amène à cheminer ensemble, n'est-ce pas? Le Seigneur fait une œuvre de grâce. Le Seigneur fait quelque chose de particulier au milieu de nous autres. Puis on ne dit pas ça pour se vanter, on ne dit pas ça parce qu'on est meilleur que personne. On n'est pas meilleur que personne, puis on n'a rien à se vanter. Parce que qu'est-ce qu'on a reçu? Mais il faut reconnaître que Dieu est bon et fait quelque chose de spécial en notre sein. OK? C'est juste, c'est comme ça. Et je pense que le Seigneur veut nous montrer des choses, nous amener à un nouveau niveau là-dedans, de qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est notre vie. Parce que depuis quelque temps, le Seigneur nous travaille là-dessus. Puis c'est comme s'il nous amène quelque chose de nouveau, mais l'ironie, c'est que ça remonte à ce qui est dans le plus ancien, la parole de Dieu, le jardin d'Éden. Fait qu'un matin, le message est dans le jardin. On s'en va à la source de tout comment ça a commencé. La révélation de la parole de Dieu en ce qui concerne les deux arbres. C'est quoi les deux arbres qu'il y avait dans le jardin? En fait, il y en avait plein d'arbres, mais il y en a deux qui sont l'arbre de la connaissance de la bien puis du bien puis du mal. Puis vous allez voir, on peut l'appeler l'arbre de la mort. Vous allez voir pourquoi dans le message. Puis l'autre, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie. Et on va parler de ça ce matin. En fait, on va parler de vérité libératrice. Fructueuse. Et oui aussi, c'est là que je dis un prix de souffrance relationnelle. Et vous allez savoir pourquoi. C'est un peu la mauvaise nouvelle de la bonne nouvelle du message ce matin. C'est que lorsque on vit en se nourrissant de l'arbre de vie, souvent on est mal compris, même souvent on est rejeté par ceux qui vivent de la connaissance du bien et du mal. C'est ça la vérité. Puis on va voir pourquoi. Mais là, je vais vous dire une phrase, je vais la répéter deux fois pour amener un peu ce que je veux vous dire aujourd'hui. Savez-vous qu'on n'a pas été créé pour vivre en fonction du bien et du mal? Ça sonne bizarre, hein? Ça sonne quasiment. On n'a pas été créé par notre Dieu pour vivre en fonction du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'on a été créé pour vivre, non en fonction du bien et du mal, mais en fonction de la vie et de la mort. Choisis la vie. Dieu met devant nous la vie et la mort. Choisis la vie. Parce que, écoutez bien, c'est simple dans le fond. Le bien et le mal, c'est pas assez. Le bien et le mal, c'est pas vivant. Le bien et le mal, c'est là comme une vérité sur une page. Mais la vie puis la mort, c'est tellement plus parce que la vie de Dieu inclut tout le bien dont on a besoin. Au début, Dieu nous avait créé pour la vie. Puis on était en vie, puis on avait tout le bien dont on avait besoin. Tout ce qui est bon était là. Dieu l'avait dit, il a tout fait ce qui est bon, puis il a fait l'homme et la femme, il a dit c'est très bon. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est ça l'intention originale du Créateur en nous créant en fonction de la vie. Et rentrer le péché, et avec le péché, la mort. Comment il est rentré avec cette notion de bien puis de mal? On va en parler pendant trois messages. C'est tellement... Je vous dis, c'est simple, mais c'est profond. Puis, je vous encourage, tout le monde qui est ici, puis les gens qui ne sont pas là, à écouter, réécouter, non seulement ce message-là, mais aussi ceux-là de l'après-midi. Parce que, après-midi aussi, on va parler de choses qui ont vraiment un impact grand sur notre vie. Donc, on n'a pas été créé pour l'arbre de la connaissance, mais pour l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance promet la vie, hein, n'est-ce pas ce qu'il dit, hein, tu vas être comme Dieu, tu vas savoir la, hein, tu vas avoir une vie, ou est-ce que... Puis en passant, c'est pourquoi si Ève était là, hey, là j'ai quelque chose de méchant contre Dieu. Non, c'était beau, c'était, hein, wow, je vais être capable de faire la différence de bien et de mal, je vais être comme Dieu, hein, je vais m'améliorer. C'était ça toute la tromperie de l'arbre de la connaissance, c'était la tromperie de penser qu'on va s'améliorer. Vous allez voir comment il n'y a rien qui change, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est encore la même tromperie qui est amenée aujourd'hui. Si tu connais le bien puis le mal, tu vas t'améliorer. Alors que la promesse de Dieu, c'est donc si tu as la vie, tu vas être transformé. C'est complètement une autre affaire. L'arbre de vie promet, l'arbre de la connaissance du bien puis du mal promet la vie. Promet de connaître Dieu et d'être comme Dieu, mais le résultat, c'est quoi? C'est la mort, puis on n'est pas comme Dieu, on est comme Satan. C'est ça la tromperie de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Satan, il est meurtrier, il est menteur. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Non, on a été créé, et lorsqu'on est sauvé, la rédemption, lorsqu'on est racheté, on est... sauvé pour le Dieu qui est la source de gloire par le choix de la vie. Dieu, on voit sa gloire. Dieu, on connecte avec sa gloire, avec le but original de notre création lorsqu'on choisit la vie. Ceux ici qui ont été sauvés par Jésus-Christ, c'est parce qu'un jour, vous avez été face à la vie et à la mort et vous avez choisi la vie. Parce que Christ est la vie. Vous l'avez reçu dans votre vie. Et le reste de la vie chrétienne, c'est constamment de choisir Christ, notre vie. C'est constamment ça, de tout le temps marcher, choisir Christ, la vie. Et pour revenir ici à ce qui arrivait dans Corinthiens, qu'est-ce que Paul vivait ici dans 1 Corinthiens 4, puis dans en fait ses relations avec les Corinthiens en général, dans les deux lettres qu'on a? Bien, les Corinthiens, étant des Grecs, dans leur sagesse, vous savez, les Grecs cherchaient la sagesse, cherchaient l'homme parfait, cherchaient l'accomplissement avec ce qu'on peut avoir comme compréhension des choses. Autrement dit, c'était des spécialistes de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eux autres, là, ils voulaient trouver la solution à la vie en se nourrissant à cet arbre. C'était les spécialistes de ça. C'était une culture qui était vouée à ça. En fait, ils passaient leur journée à chercher ça. Puis juste pour votre information, ça ne marchait pas parce que c'était la mort. Il y avait besoin de la vie qui est en Jésus-Christ. Donc, les Corinthiens étaient des chrétiens issus de cet arrière-plan, parce que c'est des saints, c'était des enfants de Dieu, mais avec cet arrière-plan-là de sagesse, de logique humaine, ils étaient dans une dynamique avec Paul de « tu as tort et j'ai raison ». Ou on pourrait dire « j'ai raison ». Non, moi j'ai raison. Est-ce qu'on entend ça dans les milieux chrétiens? Hey, nous on est les bons, eux autres c'est les méchants, nous on a raison. Eux autres, savez-vous quoi ça? C'est comment dans la dynamique chrétienne on transfère cette logique, cette dynamique du bien puis du mal. Alors qu'on devrait plutôt penser, est-ce qu'on est vivant comme église? Puis l'autre église là, est-ce qu'ils ont la vie de Christ? Est-ce qu'elle se manifeste? Est-ce qu'on pense en fonction de vie et de mort ou de bien et de mal? C'est un changement de paradigme, de façon de voir les choses. Parce que quelqu'un peut tout avoir raison, mais il peut être mort comme un cadavre. Ben, un cadavre, c'est pas mal mort, là. Fait que c'est pas une question, j'ai raison, est-ce que je suis vivant ou je suis mort? Et dans leur rapport mutuel, et dans leur rapport avec Paul, cette église était caractérisée par l'amour. La Bible dit, ben Paul leur dit, vous êtes charnels. Il était chrétien, mais il était complètement tout le temps au niveau de l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Du bien, OK, puis il passait à côté de l'essentiel de la vie. Et là, c'est là tout le sens. Pourquoi Paul il dit au verset 12, « Ainsi la mort agit en nous. » Et là, Paul s'inclut, lui, puis ceux qui étaient avec lui, qui prêchaient l'Évangile, l'Évangile aux saints, parce qu'ils ont été sauvés, mais ils continuent à leur prêcher l'Évangile, Christ, leur vie. Donc, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Paul subissait la mort d'avoir choisi Jésus. Subissait la mort de subir l'offense pour Christ. Écoutez là-dessus, Romains 15, je vous dis, il y a de la suite des idées, les trois prochains messages, ça va tout se bâtir un sur l'autre, mais on va voir ça la semaine prochaine, ou l'autre d'après, en tout cas, on va voir ça bientôt. Car Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Christ était exposé à la mort parce qu'il était la vie dans un monde hostile. Et Paul prêchait la vie, il était vivant, et dans ses relations avec les Corinthiens, la mort travaillait en lui. La mort travaillait, la mort à cause que il y avait un message qui n'était pas reçu. La mort, là, relationnellement, c'est la séparation. Donc, il séparait des Corinthiens parce qu'il prêchait un message qu'il ne voulait pas recevoir. Mais, à cause du message de l'Évangile, du message de vie, Dieu servait de ça pour travailler la vie dans les Corinthiens. Pour leur montrer qu'ils passaient à côté de l'essentiel, parce que Paul leur dit, « Moi, je n'ai pas eu d'autre pensée qu'aller prêcher parmi vous Christ et Christ crucifié. » Autrement dit, d'aller vous prêcher le message de la vie. On est mort au péché, vivant pour Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit, « La mort agit en nous, afin que la vie agisse en vous. » On se laisse être mal compris, on se laisse être vu tout croche, pour que vous puissiez saisir l'essentiel, que vous puissiez être en contact avec la vie. Plus à suivre là-dessus, mais déjà, je vous amène ça en commençant. Je vous donne une illustration, OK? Ça va peut-être vous aider. Puis Paul, d'ailleurs, c'est une illustration qu'il utilise avec les gens qui ont amené au Seigneur. Il appelle souvent ses enfants. Ben nous, ceux qui ont des enfants ici, savez-vous que dans nos relations avec eux autres, puis souvent, c'est très teinté par la peur. Hein? On va voir ça la semaine prochaine, Dieu voulant, avec un message dans Genèse 16. Mais souvent, dans nos relations avec nos enfants, à cause de la peur, on peut essayer de leur donner des connaissances, des bonnes connaissances, des bonnes choses, au lieu de leur donner Jésus. On peut leur donner l'arbre de la connaissance, mais on néglige de leur donner, de leur montrer l'arbre de la vie. Christ est l'arbre de vie. Christ est notre vie. Ou pire encore, on peut être en relation conflictuelle avec eux autres, avec nos propres enfants, en opposant notre connaissance, notre façon de sortir du mal puis de rentrer dans le bien, OK? Notre façon de faire les choses. Mais sans pour autant les inciter, les inviter à se confier en celui qui est complètement bon. Autrement dit, on leur donne notre formule du bien, comment ça devrait bien aller, puis on peut avoir plein de versets et tout ça, mais on peut passer à côté de celui qui est bon, comprenez-vous? On peut passer à côté de l'essentiel, de celui qui est essentiel. Pensez-y, il n'y a de bon que Dieu seul. On n'est pas appelé à vivre selon le bien et le mal, mais selon la mort et la vie. Et quand on choisit la vie, on choisit Christ et on choisit le bien. C'est automatique. On n'a pas à se casser la tête avec le paradigme de vivre selon bien et mal. Si on vit selon vie, mort, quand on choisit la vie, le bien est tout là. Comprenez-vous? Et ça veut dire que choisir le bien, mais hors de Dieu, ou encore plus subtil, en se servant de Dieu. Dieu vient m'aider à faire du bien. Ça, c'est une bonne tromperie chrétienne. C'est-à-dire que Dieu vient m'aider avec ton aide à vivre de façon indépendante de toi. Moi, je veux faire ça, puis je sais que c'est une chose que tu veux que je fasse, fait que je veux la faire, mais indépendamment de toi. Ça, c'est un classique de la vie chrétienne. Dieu, aide-moi à faire. Au lieu de Christ, toi, fais-le à travers moi. Christ, ce que toi, tu m'appelles à faire, je ne peux pas le faire. Il y en a un qui c'est indépendant, l'autre c'est dépendant. Donc, tout ce bien-là qu'on peut faire, finalement, c'est mal, c'est la mort, parce que c'est rechercher la vie au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Se servir de Dieu pour remplir un code moral, faire des bonnes choses, éviter les mauvaises. Puis vous allez voir, je vous dis, il y a non seulement dans les trois messages, il y a quelque chose qui se bâtit, mais même dans ce message-ci, par la grâce de Dieu, j'espère que notre compréhension va être de plus en plus claire par rapport à ce que je vous explique là. Maintenant, pour revenir ici avec Paul et les Corinthiens, avec cette mort qui agit en lui, la vie qui agit en eux, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce que Paul dit ici, c'est-à-dire que Paul dans sa relation, parce que tu sais, c'est relationnel. L'arbre de la vie est relationnel. L'arbre de la connaissance du bien puis du mal, c'est intellectuel, factuel. OK? La vie, c'est relationnel, n'est-ce pas? Tu sais, je veux dire, la vie se reproduit par les relations, mais pour juste la connaissance, ça peut être froid, ça peut. T'as pas besoin de relations. En fait, ça peut briser les relations, ça peut justement amener la mort là où il devrait avoir la vie. Mais Paul, avec les Corinthiens, il vivait la mort du rejet. Il était rejeté par eux autres. De l'incompréhension. Il amenait un message que les autres disaient, « Ben, t'es fou. Ça n'a pas de bon sens ce que tu dis, n'est-ce pas ce qu'il dit? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Puis il leur dit aussi, « Je ne peux pas vous parler comme à des hommes spirituels, je vous parle comme à des hommes charnels. » Vous comprenez pas ce que je vous dis? Il était ridiculisé. Il vivait la mort du rejet, de l'incompréhension, d'être ridiculisé. Pourquoi? Parce qu'il partageait la vie de Christ, qui était considérée comme une folie. Et la vie de Jésus, par le fait même, se formait dans les Corinthiens par le message de vie qu'il amenait, parce que nous, on voit ce qui arrivait, il y a eu un conflit, mais n'oublions pas que les Corinthiens étaient des enfants de Dieu, et Dieu travaillait en eux autres. Et Dieu formait Christ en eux. Mais je vous l'ai dit, c'est ça, c'est Paul qui mangeait tous les coups. Parce que lui avait le message de vie, puis les autres étaient là à comprendre, il y avait tous les contre-coups. Pour ça, je vous dis, c'est la mauvaise nouvelle. Si on veut prêcher la vie dans un monde de mort, c'est sûr qu'on va avoir un prix à payer. Oh, mais la récompense est grande, et ça, on va y venir dans un instant, mais Paul était un instrument de vie. Et à la lumière de tout ça, j'aimerais nous amener une couple d'applications. C'est un message un peu non conventionnel, c'est pas point 1, 2, 3, mais là, j'ai expliqué la base, puis je vais vous donner des applications qui vont nous aider à mettre tout ça ensemble ce matin. Je l'ai dit déjà à quelques reprises, mais je le répète, il y a un prix de souffrance reliée à choisir la vie. Et là, on l'a écouté bien, je ne veux pas que personne n'aille parler de ça ce matin, mais je répète, il y a un prix de souffrance à choisir la vie. Puis là, dans notre cœur, instinctivement, en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on dit? Hey, je ne veux pas ça. On se retire aussi quand on entend le mot souffrance, n'est-ce pas? Mais c'est parce qu'encore là, si on passe à côté de l'essentiel, on va avoir peur. Mais si on voit l'essentiel, on va être attiré. Oui, il y a un prix de souffrance à choisir la vie. Mais il y a un prix encore pire de souffrance à choisir la mort. Il y a un prix des deux cas. Mais il y en a un qui est satisfaisant, qui nous remplit, c'est celui de la vie. Mais il faut être réaliste, il y a un prix, on va être incompris, ça ne sera pas, tu sais, les chrétiens qui vivent sur un petit nuage, tout est beau, non, tu sais, c'est... Mais ça vaut tellement la peine. C'est ça la foi, le juste vivra par la foi. Oui, il y a un prix, mais ça ne me dérange pas parce que Dieu me récompense. Puis pour moi, je cherche Dieu, puis c'est plus important de trouver Dieu là-dedans que d'avoir ce que je voudrais. Maintenant, pour développer un peu ce point-là, le prix relié à choisir la vie, savez-vous, ça part du simple fait que la chair n'aime pas la vie. Hey, c'est poche, hein? Mais notre chair, là, elle n'aime pas la vie de Christ. Puis elle ne change pas d'idée là-dessus. Juste si vous n'étiez pas convaincu, là, je vais vous dire, l'affection de la chair est inimitiée, ennemie contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Fait qu'essayez pas d'améliorer votre chair, elle ne va jamais aimer ce qui est de l'esprit. Okay? Elle n'aime pas la vie. Mais la chair aime la connaissance, par contre. Oh, ça, elle aime ça parce qu'elle peut s'enorgueillir. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'amour, c'est payer le prix de la vie. Accepter de souffrir pour le bien et même le péché d'autrui. Et on a parlé de Paul, mais parlons de Jésus-Christ. Jésus qui est la vie lui-même, hein, qui est Dieu fait chair, qui est venu plein de grâce et de vérité dans ce monde. Il est venu dans un monde, et la Bible nous dit dans Ésaïe qu'il était caractérisé par la souffrance, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Christ est venu dans ce monde, étant la vie lui-même, puis le pattern de ce qu'on dit là, c'était constamment sa vie pour lui. Il était l'homme de douleur, habitué, accoutumé à la souffrance. Pourquoi? N'est-ce pas qu'on pense que quelqu'un qui vit va juste amener la vie, tout le monde va être heureux? Non. Oui, il insufflait la vie. Il était le sauveur, il a donné la vie à beaucoup autour de lui, mais il était dans un monde hostile. Un monde hostile dont la sagesse n'était pas neutre, mais agressive. Écoutez là-dessus, puis là on peut parler des Juifs, on peut parler des Grecs, le monde en général. Cependant, c'est une sagesse que nous pressons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Une sagesse qui vient de l'arbre de vie, pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ni les chefs de ce siècle qui vont introduire à l'impuissance. Nous pressons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, puis c'est Christ, cette sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire, le Seigneur de vie. C'est pour ça que l'homme spirituel, il va souffrir dans ses relations avec l'homme naturel, qui ne connaît pas Dieu, et avec l'homme charnel, le chrétien, qui connaît Dieu, mais qui marche selon sa propre sagesse. C'est ça qui arrivait à Paul. C'est ça, cette mort qui agissait en lui, et c'était ça le processus par lequel Dieu voulait que la vie agisse dans les Corinthiens, pour qu'il assaisisse cette vie. Et c'est ça notre appel. Si vous êtes prêt à embarquer dans ce que Dieu est en train de faire, c'est ce qu'il faut être prêt. Mais la récompense, c'est de voir la vie de Christ formée en nous. Et oui, aussi formée dans nous, parce qu'on ne souffre pas en vain en prêchant Christ, en ayant sa vie qui agit en nous. Oui, elle va se former dans les autres. Oui, Dieu va faire son œuvre. Pas à notre manière, pas en notre temps, puis pas avec notre aide. C'est Dieu qui va le faire. En son temps, à sa manière, mais il va le faire. On n'est pas appelé à changer les autres, on est appelé à laisser Dieu nous changer, puis à travers nous, il va faire ce que lui veut faire pour opérer son changement dans les autres. Autrement dit, là, pour le mettre bien simple, Paul a choisi la vie au détriment d'avoir raison. Parce qu'il était méprisé. Ah, il ne sait pas bien parler. Tu sais, parce que les Grecs avaient des grands orateurs qui parlaient avec... Parce que nous, notre Nouveau Testament est écrit dans un grec commun. Tu sais, des gens de la rue, on pourrait dire. Mais t'en as, là, qui parlaient avec des grands mots, puis là, un grec très sophistiqué. Puis là, eux autres, ils impressionnaient le monde parce que là, ils amenaient des grandes idées. Puis Paul avait l'air pas mal d'un ignare, d'un inculte à comparer à eux autres. Mais savez-vous quoi? Eux autres, ils avaient juste de la connaissance. C'était la mort. Puis, Paul a choisi là, de continuer à amener un message de vie, même si ça l'amenait toute cette mort à travailler en lui, parce qu'il savait qu'il fallait qu'il fasse ça pour que la vie agisse dans les Corinthiens qui aimaient tant. Christ était formé en eux. Il acceptait de payer le prix, de ne pas avoir raison d'avoir de l'air fou, parce qu'il désirait Christ pour ses précieux Corinthiens plus que d'autres choses. C'est ça, d'accepter de payer le prix de la vie. D'abord, on peut avoir des arguments théologiques, apologétiques avec des gens. L'issue ultime, c'est pas d'avoir raison. L'issue ultime, c'est de communiquer la vie de Christ, le message de vie. Et ce, même si on est incompris, puis ridiculisé, puis qu'on passe pour des... Tu sais, dites à tout le monde dans un milieu intellectuel, M. Cagny, que vous êtes un créationniste. N'est-ce pas qu'on se fait ridiculiser? Un arriéré? Mais là, on parle d'un carrément un autre paradis. Si on pense en termes de mathématiques, c'est, il y a un ensemble ici de la connaissance du bien puis du mal, mais l'ensemble de la vie, ça venait un autre. Vous nous amènerez quelque chose là-dessus, là, mais c'est deux ensembles différents. Je sais pas si j'ai raison mathématiquement, mais je pense vraiment, tu sais, c'est ça. Il y a un ensemble qui est la mort, c'est la connaissance du bien puis du mal. L'autre, c'est la vie. La gang ici, c'est ceux qui comprennent pas ça. Mais nous, faut pas qu'on change d'amener ce message de vie, parce que c'est ça qu'eux autres ont besoin. C'est ça qu'on communique. C'est pas grave, même si on est ridiculisé. Tu sais, c'est par là que notre Seigneur va passer. Que ses serviteurs vont passer. Puis même si tu es aux mains de d'autres chrétiens, qu'importe, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la course avec joie.
Amen.
Une autre application. L'intention de Dieu n'a jamais été que nous vivions en fonction du bien et du mal. Je le répète, moi, en entendant ça, instinctivement, il y a quelque chose qui, on dirait, voyons, c'est parce qu'on n'est pas habitué, c'est contre-intuitif, on est tellement, depuis qu'on est tout petit, qu'on se fait dire, ça c'est bien, ça c'est mal. Puis c'est pas qu'on rejette la moralité, mais la moralité, c'est pas une façon de vivre, Christ est notre façon de vivre. Puis quand on a Christ, on a tout le bien, Christ ne rejette pas la moralité, il est le bien. Quand tu connais le bien, l'authentique, le mal, tu le vois tout de suite, comprenez-vous? C'est que non, quand je vais vivre en fonction du bien et du mal, là, t'as pas besoin de Dieu. Mais si t'as Dieu puis t'apprends à dépendre de lui, tu vas rejeter le mal, tu vas choisir le bien. Mais ça va être le fruit de ta vie, de ta connexion avec Christ. C'est vraiment différemment fondamental. Donc Dieu n'a jamais eu l'intention que nous vivions selon le bien et le mal. Là, il nous a créés, il nous a sauvés pour que nous vivions en fonction de la vie et de la mort. Parce que dans ce temps-là, on dépend de lui. Dépendre, ça c'est l'humilité. On dépend de lui pour se confier en lui pour notre vie. Ça, c'est notre foi. L'humilité, la foi. On dépend de lui parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur notre sagesse. Il faut s'appuyer sur lui. Et on va voir ça après-midi. Ça, c'est possible parce qu'on est mort avec Christ. On est vivant en Dieu maintenant. Là, je parle aux enfants de Dieu. C'est quelque chose que les gens non sauvés ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont encore morts dans leur offense et leur péché. On va voir ça dans un instant, dans la dernière application. Mais juste pour dire aussi à ce sujet-là, du fait que Dieu n'a jamais eu l'intention que nous vivions selon le bien et le mal, mais selon plutôt la vie et la mort. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir que des fois, faire la bonne chose, ça peut conduire à la mort. Parce que ça peut simplement être de sauter d'une branche à l'autre du même arbre, du bien puis du mal. On reste dans le même arbre, on reste dans cet ensemble-là. Ah, je fais le bien, t'as vu, j'étais là, puis là j'ai trouvé la façon que ça allait mieux. Mais t'es tout dans ta connaissance, t'es tout, tu t'appuies sur ce que toi, tu dépends pas de Dieu. Tu vis de façon indépendante. Ah, OK, c'est vrai que c'est... le monde trouve des façons où ça allait mieux. Il arrête de boire, il arrête de prendre la drogue, il trouve des solutions à des problèmes. Mais ils sont tous dans ce tableau. Ils sont dans la mort. Et c'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Non, on peut faire toutes ces affaires-là, mais sans avoir la vie. C'est pour ça que Dieu dit, voici, puis là, je vous le cite, je pense que vous l'avez déjà référé tantôt, mais Deutéronome, chapitre 30, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu ne dit pas « Choisis le bien, choisis la bénédiction. » Non, choisis la vie. Quand tu choisis la vie, tout le bien dont tu as besoin, tu vas l'avoir là. Le juste vivra par la foi. Si je trouve Dieu, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Une autre application. Savez-vous ça que tant le laxisme, comme dans Romains 6, vivrions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Tant ça que le légalisme, Romains 7, je veux faire ci, puis je veux pas faire ça. Okay? C'est deux tendances de la nature humaine. Origine du jardin. Origine de l'arbre de la connaissance du bien puis du mal. Parce que les deux, c'est choisir notre vie et non celle de Christ. C'est-à-dire qu'un laxiste dit « Je veux ma vie à ma façon. » Donc, il ne veut pas celle-là de Christ, il veut la vivre à sa façon. Un légaliste va dire « Je veux vivre la vie de Dieu à ma façon. » Je vais me servir de Dieu pour... Comprenez-vous? Fait que les deux, c'est ma façon, c'est moi. Le moi règne. C'est pas Christ qui vit en moi, c'est moi. Et les deux mènent à la mort parce qu'ils se nourrissent du même arbre et les deux mènent au découragement, voire au désespoir. Mais j'aimerais vous lire un verset, mon « Mais Dieu » pour ce message d'aujourd'hui, c'est dans 2 Corinthiens 7-6, « Mais Dieu » qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Oui, Paul avait la mort qui agissait en lui, puis c'était dur. Paul, c'est un vétéran du royaume de Dieu, de l'Église du Dieu vivant, et ça a été dur, mais Dieu l'a consolé. Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu qui console ceux qui sont abattus, il a envoyé Tite pour redonner espoir. Et je l'ai souligné dans la prière, mais à deux reprises dans notre passage, je dis, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Parce qu'au verset 1, on a le ministère de miséricorde, un ministère de vie. Dieu a eu miséricorde envers nous, on était morts dans nos offenses et nos péchés, puis il nous a donné sa vie. Et pour les enfants de Dieu, ça a commencé... Puis ça continue, Dieu forme sa vie en nous, il forme Christ en nous. De plus en plus, on grandit dans cette vie. C'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et Dieu nous amène aussi, lorsque on regarde, pourquoi on ne perd pas courage? Parce qu'on regarde à la bonne place. Lui, regardez à ce qui ne va pas ici-bas. On est dans un monde en décrépitude. C'est normal que ça aille de pire en pire, parce que ça fait partie, on est dans un monde qui a tombé, c'est la chute. Mais si on regarde à ce qui est éternel, si on se regarde à ce qui est invisible, on reprend courage. Là, je vais amener un point important. Puis là, je suis conscient, pour ça je vous dis, écoutez puis réécoutez les messages. C'est des choses qu'il faut qu'on médite. C'est peut-être beaucoup à digérer, mais je vous dis, il y a vraiment une grande bénédiction. Mais écoutez ici, quelque chose que je veux vous partager. C'est possible pour certaines personnes de devenir littéralement obsédées par la question de « Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je crois de la bonne façon? » Ceux qui sont parents ici, peut-être un de vos enfants, ou peut-être plus, qui se demandent vraiment cette question-là. Puis, voyons ça comme une opportunité de dire « Cette question-là, c'est dans le mauvais paradis, c'est dans le mauvais ensemble. » C'est la voie de la mort. Parce que c'est essayer de s'accrocher à la vie, à l'arbre qui ne donne que la mort. Parce que poser la question, est-ce que je crois de la bonne façon? Est-ce que j'ai fait... C'est vivre en fonction du bien puis du mal. Est-ce que je suis dans le mal ou est-ce que je suis dans le bien? La question à se poser, non, c'est pas ça. C'est est-ce que je suis dans la vie ou dans la mort? Est-ce que ce que je crois, c'est la vie ou c'est la mort? Et combien de conflits... Moi-même, personnellement, j'ai vécu et j'ai été témoin aussi de gens qui l'ont vécu. Ou dans des questions comme ça, savoir c'est quoi la bonne chose, souvent, le problème, ça a été d'insister sur « j'ai raison ». Écoute bien, ce que j'ai à dire, c'est ça le plus important, c'est ça qui est bon. Alors que l'idée, c'est... Non, ce qui est plus important, c'est que tu choisisses la vie. Dans ce que tu vis, dans ce qui te trouble en ce moment, dans tes doutes, Dieu t'appelle à lui. Dieu t'appelle à le choisir lui. Fait que la question, c'est pas j'ai-tu bien cru, c'est-tu bien, c'est-tu mal. La question, c'est où tu te confies. Autrement dit, Paul, quand il arrive à la fin de Romains 7, il dit pas « Ah, comment je vais m'en sortir? » Comment me délivrer de ce corps de mort? Est-ce que c'est ce que ça dit? Non, toute écriture est inspirée de Dieu, hein? Puis le mot est important. C'est pas comment je vais être délivré de ce corps de mort. C'est ça de poser la question du bien et du mal. Hey, comment, c'est quoi la bonne façon de m'en sortir? Comment je vais me délivrer de ce corps de mort? C'est sûr que ça ne va pas marcher si on se pose cette question-là. La bonne question, c'est qui? Qui me délivrera de ce corps de mort? Voyez-vous, c'est se poser la question de la vie. C'est qui? C'est le Dieu vivant. C'est le Dieu qui restaure, qui nous redonne la vie, qui forme sa vie en nous. Comprenez-vous? Ah, mon ami, c'est... En tout cas, Puis, faut comprendre, c'est ça, il y a, je dis, il y a un prix relationnel à payer, mais même pour nous autres, la chair regimbe et refuse de lâcher le morceau, de vouloir essayer. Elle est têtue, notre chair, puis elle va tout le temps vouloir, elle peut pas plaire à Dieu, puis... C'est pour ça que Dieu... La bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez choisir la vie. Puis si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, vous devez commencer par ce choix-là important. Choisissez la vie. Christ est la vie. Recevoir Jésus comme son sauveur, c'est recevoir la vie. C'est de passer de la mort à la vie, du royaume de Satan à celui de Dieu, des ténèbres à la lumière. Donc, on peut choisir la voie par excellence. On peut choisir la vie. Et ça m'amène à la quatrième et dernière application de ce message ce matin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le lieu de rencontre entre le chrétien et le monde. Écoutez bien ça. Je le répète, l'arbre de la connaissance, c'est le lieu de rencontre entre le chrétien et le monde. Parce que les deux s'entendent. Ben, je veux dire, le chrétien qui choisit pas la vie, le chrétien qui veut vivre selon le bien et le mal. Le monde et les chrétiens vont dire, hey, faut choisir le bien. Il faut quitter le mal, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'idée, c'est on veut devenir meilleur. Seigneur, je veux être un meilleur chrétien. Ben, n'est-ce pas que le monde dit, avec la psychologie, puis avec la politique, l'éducation, on veut être des meilleures personnes. On veut la méthode pour devenir, on veut la bonne façon politique, on veut la bonne méthode de psychologie, d'éducation pour devenir des meilleures personnes, passer de là où est-ce qu'on est pour aller à mieux. Rappelez-vous, ah, cette branche-là est un peu basse. J'aimerais ça aller une branche plus haute. On est toujours dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On recherche à aller de là à plus haut. Mais on ne parle pas de changer d'arbre du tout. C'est l'air du temps en ce moment, beaucoup. En fait, je pense que c'est même un signe des temps. Le début rejoint la fin comme ça a commencé dans le jardin avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le monde, c'est incroyable, il recherche la connaissance, la sagesse pour se sortir de ça, puis l'unité, hein? Comme à Babel, essayer de, hey, on va s'en sortir, puis on va trouver la solution à ce monde qui va donc bien mal. Mais ils ne veulent pas choisir la vie, ils ne parlent pas de Jésus, ils parlent de connaissance, de façon. Et l'Église tiède embarque à pieds joints là-dedans parce qu'elle laisse, écoutez, pourquoi l'Église tiède embarque là-dedans? Parce qu'elle attriste l'esprit de vie. Parce que l'esprit de vie nous pointe toujours à la vie, à Christ notre vie. Il prend ce que Christ a enseigné puis nous amène. Fait que, autrement dit, c'est pas pour rien que Dieu nous amène où est-ce qu'on est là. Parce qu'on a été longtemps dans cet arbre-là puis Dieu dit, hey, c'est pas pantoute là que ça joue, c'est ici. C'est pas une question de bien puis de mal. C'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça que l'Église doit être foncièrement différente. Pas pour le but d'être différente, parce qu'elle est différente. L'Église, elle est vivante. Les enfants de Dieu sont vivants alors que le monde est mort. Et l'Église se nourrit à l'arbre de vie. Sinon, on a la définition même d'une Église mondaine. Une Église mondaine, c'est une Église qui est ici, qui se nourrit de... Puis là, on peut avoir toutes sortes de formules puis de façons. Mais tant qu'on se nourrit à l'arbre de la connaissance du bien puis du mal, on est comme le monde. L'Église, le chrétien, a perdu la saveur de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne connaissent pas c'est quoi leur choix. Ils pensent que le choix, c'est entre le bien puis le mal, alors que c'est entre la mort puis la vie. Puis regardez comment les deux dernières années ont été une illustration puissante de ça. N'est-ce pas qu'un point de division entre certaines églises puis d'autres églises, ça a été, ben ça, faut faire ça parce que c'est bien. Hey, tu peux pas dire qu'il faut faire ça, ça dit ça, là, c'est bien, là. Alors que très peu d'églises ont dit non, faut choisir la vie. Amen. Amen. Savez-vous quoi, quand on a choisi la vie, moi, là, je le vois, là, notre église, là, est-ce que c'est mal ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a été trompé en choisissant la vie? Hey, là, ça... Non, on a trouvé tout le bien que Dieu fait quand on choisit la vie. Amen. Voyez-vous comment est-ce que Dieu nous révèle, c'est très concret, dans les deux dernières... Puis, regardez aussi ceux qui ont choisi de même, souvent, regardez comment la mort s'est répandue. Dieu a révélé les choses dont on parle dans la réalité de nos églises. et des vies chrétiennes, puis des familles, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'avec les gens, c'est des fois, il y en a qui reviennent avec des affaires, choisissez la vie. Allez pas sur le terrain du bien et du mal. Perdez pas du temps là-dessus, vous allez vous obstiner jusqu'à ce que mort s'en suive. Littéralement, mais comprenez-vous le jeu de mots, vous allez vous obstiner dans l'arbre du bien et du mal. Jusqu'à ce que mort s'en suive, vous choisissez la mort. Choisissez la vie, choisissons la vie. Ça fait 45 minutes que je parle. J'achète.
On est prêt à écouter encore.
Amen, frère. Encore un petit 2h15. Non, sérieusement.
On a faim.
Amen. Amen, frère. Non, mais je vais amener ça ici. N'est-ce pas que les deux dernières années nous ont montré que le monde n'est d'aucun secours à l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité? Qu'est-ce que le monde peut nous donner? Ils ne sont pas dans le bonheur. Ils ne connaissent même pas, ils ne connaissent pas la vie. Comment ils peuvent nous aider? Comment ceux qui sont morts peuvent nous aider dans la vie? Ça ne va pas arriver. Le monde est mort, c'est ce que ça dit dans Éphésiens 2. Il ne peut pas choisir la vie. Écoutez, d'ailleurs, je l'ai mis où celle-là? Romains. Ah, ici. Car l'affection de la chair est d'immiscer contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, je l'ai lu tantôt. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Autrement dit, on peut dire ceux qui veulent vivre selon le bien puis le mal. Ceux qui veulent vivre de façon indépendante de Dieu. Or, se donnant bonne conscience de dire, Dieu, on fait ça pour toi, Dieu vient nous aider à faire ce bien puis le mal. On ne peut pas plaire à Dieu de même. Ce n'est que par la foi qu'on plaît à Dieu. On peut se donner toutes les raisons du monde, mais si on vit de façon indépendante de Dieu, on ne plaît pas à Dieu. Il faut choisir la vie. Tout est une question de choisir la vie. Et si je veux vivre selon le bien et le mal, je vais exclure cette grande phrase qui résume la vie des croyants. Le juste vivra par la foi. Ça, il faut que je dépende de Dieu pour vivre par la foi. C'est pour ça que le Seigneur nous amène à ce point-là. Regardez, là. Voyons clairement que je peux dire à Dieu, Dieu, donne-moi une petite boîte là, avec laquelle je vais tout avoir mes instructions puis je vais pouvoir vivre pour toi. Ça paraît-tu bien pareil? Mais dans le fond, Dieu, pour si on le traduit, Dieu, montre-moi à vivre de façon indépendante par moi-même, mais tout en me disant que je vis pour toi. Parce qu'on peut faire tout ça, être éloigné de Dieu, pas avoir la vie de Dieu, ou attrister la vie de Dieu en nous, mais on ne choisit pas la vie. Fait que cette phrase-là, que Dieu la grave sur nos cœurs, qu'il nous l'enseigne, on n'a pas été appelé à vivre selon le bien et le mal, mais la mort et la vie. Et on est appelé à choisir la vie. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre arbre que l'arbre de vie. Christ est l'arbre de vie. La croix, c'est la deuxième chance de l'arbre de vie. Le premier a été fermé, plus d'accès. Mais gloire à Dieu, il est venu plein de grâce et de vérité, puis il est mort sur ce deuxième arbre pour qu'on puisse avoir la vie. Du calvaire jaillit la vie. Et si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore reçu cette vie, choisissez la vie, choisissez Jésus comme votre sauveur pour que vous ayez la vie. Et enfant de Dieu qui est ici ce matin, admettons-le, on a tous cueilli aux fruits empoisonnés de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en essayant de vivre selon tout ce paradigme du bien et du mal. Dieu, donne-moi ma recette, puis je vais vivre selon ça, ça va bien aller. Moi, j'ai cueilli à cet arbre. Mais on a négligé, on a manqué de vivre par la foi en fonction de la vie et de la mort. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Choisissons la vie, choisissons Christ. En fait, je termine avec ce simple verset. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Dieu nous enseigne Christ. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, je te remercie parce que Tu as eu pitié de nous autres de tellement de façons, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que c'est vrai qu'il n'y a pas personne qui peut se glorifier. Nul chair ne se glorifie devant toi, Seigneur. J'espère qu'à matin, on ne va pas se penser bon de savoir des choses. Oh, loin de nous, Seigneur. Non, mais qu'on va se réjouir d'avoir la vie. Seigneur, qu'on ne méprise pas personne parce qu'ils ne sont pas rendus là, parce qu'ils rejettent encore la vie. Oh, mais qu'on invite les gens, qu'on accepte que la mort travaille en nous afin que la vie agisse dans ceux autour de nous. Puis que la vie aussi agisse en nous. Seigneur, tu nous appelles à ça. Si on choisit la vie dans ce monde de mort, on va être plus exposé à la mort. Oh, mais comment la récompense est grande. Comment ça n'en vaut la peine. Et de toute façon, si on choisit selon le bien puis le mal, on s'en va à pieds joints dans une mort encore pire. On va être découragé, on va être désespéré. Mais pour nous, on ne perd pas courage. Parce qu'on a reçu miséricorde et on peut étendre cette miséricorde. Seigneur, je te prie que tu te serves de ces bien faibles et maladroits efforts ce matin de prêcher Christ à ce peuple précieux. Seigneur, je te remercie parce que t'es patient, puis oui, t'es doux, puis t'es humble de cœur. Continue, Seigneur, cette œuvre de grâce. Qui est suffisant pour ces choses, Seigneur? Tu sais, j'ai essayé tant bien que mal de prêcher Christ ce matin, mais je sais que c'est toi, Seigneur, le vrai enseignant. C'est toi qui fais ton œuvre. Continue, Seigneur. Puis je te prie pour ceux qui sont lassés, découragés, Seigneur, ce matin, qui reprennent courage en toi. Je te prie pour ma femme, pour mes enfants, Seigneur, ce matin. Mon cœur est avec eux autres. Puis merci, je sais aussi que les gens de cette église les aiment, puis leur cœur aussi est avec eux. Je te prie pour toutes les gens, Seigneur, qui en ce moment sont dans le feu de l'épreuve ou vivent des choses difficiles, Seigneur. On te choisit, Seigneur. Et c'est suffisant. C'est pas plus compliqué que ça. On vient à toi, notre vie. Oh, et Seigneur, si quelqu'un ne te connaît pas encore, ah, oh, qui te voit, qui voit la croix, qui voit que tout est accompli, qui s'humilie devant toi et reçoive la vie, qui passe de la mort à la vie, Seigneur, on te prie pour ça. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus.
Amen.
Amen.